Bonjour à tous et à toutes. Voici un an que le dernier président des États-Unis est entré en fonction, ou plus exactement réentré en fonction, puisqu'il ne vous aura pas échappé que le monsieur avait déjà effectué un mandat. Mais cette première nouvelle année semble radicalement différente des quatre précédentes à la Maison Blanche. Un an après donc, on fait le bilan de ces 12 derniers mois de bruit et de fureur et de glissement net vers une nouvelle forme de gouvernance d'État. Donald Trump va-t-il changer radicalement la manière de diriger un État démocrate ? On en parle donc pendant une heure avec mes invités. Welcome ladies and gentlemen in the lorgnette on Studio Zef. Salut Mathilde.
Salut Thomas.
Merci d'être avec moi pour cette émission. Donc on est en direct en compagnie de deux invités pour parler donc de cette première année de mandature, de nouvelle mandature Trump, avec Jérôme Danard. Bonjour.
Bonjour Thomas,
merci, bonjour Mathilde. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc le président départemental de l'association d'amitié France-USA, c'est ça ?
Oui, France-États-Unis, une association nationale qui a été créée en 1945, juste après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est 2500 adhérents sur toute la France et 20 chapters, dont un en Loir-et-Cher qui a été créé en 1983. Et on organise donc des conférences, des expositions, puisque c'est une association culturelle apolitique et qui a pour vocation de faire la promotion de l'amitié franco-américaine, vraiment sous l'angle culturel.
Je lisais sur votre site que est-ce un effet de communication ou pas que le Loir-et-Cher serait un des départements les plus états-uniens en France. Alors est-ce qu'on peut l'expliquer rapidement ?
Oui, d'une certaine manière, effectivement, le Loir-et-Cher est très franco-américain, puisque au nord du département, nous avons à Vendôme le maréchal de Rochambeau qui a été le commandant en chef du corps expéditionnaire qui a permis l'aide de la France auprès des colons et donc de permettre la création des États-Unis tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et puis un peu au sud, nous avons la base aérienne de Romorantin qui a été créée par l'armée américaine avec à la tête le général Pershing. Il faut savoir que pratiquement 25% de l'effectif de l'armée américaine pendant la Première Guerre mondiale est passé en Loir-et-Cher. Et puis après, on pourrait parler aussi du château de Chaumont-sur-Loire où Benjamin Franklin venait résider de temps en temps avec son petit-fils et j'en passe.
Très bien pour donc ce rappel de la longue histoire entre le Loir-et-Cher et les États-Unis. Avec nous aussi en studio, Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes américain, résident en France depuis donc un peu moins de 5 ans maintenant, c'est ça ? Vous allez nous dire, est-ce que votre résidence en France est liée à ce fameux personnage dont on va parler durant un an ?
Bien sûr, pour moi c'est plutôt la reine orange, j'aime dire. Mais oui, merci pour l'invitation, merci de m'avoir
avec
invité
plaisir.
Et pour l'accueil, très charmant. Ouais, je me présente rapidement.
Ouais.
Mathieu, j'habite en France depuis 2021. J'ai étudié le français à l'école, mais pour nous ça commence plutôt au lycée. Donc j'ai fait 3 ans au lycée. Il faut 2 ans d'une langue étrangère pour obtenir l'équivalent du bac.
Ouais.
Et puis à l'université, c'était mon deuxième diplôme, le français. Et puis après, je l'ai abandonné un peu, mais je l'ai repris parce que j'ai trouvé des postes en tant que professeur de français élémentaire. Donc pour les débutants, vraiment A1, basique, je m'appelle, bonjour, salut. Et puis pendant 4 ans, j'étais professeur de français à l'université de la Pennsylvanie. Et c'est là où je me suis dit, ok, c'était Covid. Il est temps de vraiment maîtriser la langue. Et la seule façon de faire ça, c'est de venir en France.
Donc, on comprend que Mathieu, vous parlez bien français. En tout cas, vous êtes hyper compréhensible. Donc, ça, c'est bien. Et puis, au téléphone, en préparant l'émission, Jérôme, vous me disiez que Trump aimait beaucoup la France. Alors, est-ce qu'on peut parler des relations entre la France et les États-Unis et de savoir, de la francophilie, c'est peut-être un grand mot des États-Uniens et tout ça. Mais est-ce qu'on peut faire un petit point là-dessus avant de rentrer dans le vif du sujet ?
Oui, alors, ce que l'on peut dire entre la France, les États-Unis, c'est que ce sont des amis, ce sont des alliés au niveau militaire et ce sont des partenaires économiques. Quand je dis amis, je le rappelais tout à l'heure en évoquant le maréchal de Rochambeau, c'est la France, c'est la plus vieille monarchie d'Europe en 1780 qui vient aider les colons contre le roi George III en Angleterre qui les opprimait et qui va permettre la création des États-Unis grâce à la bataille de Yorktown qui a été gagnée avec l'aide de Rochambeau et de Lafayette. Donc depuis 1781, nous sommes amis. C'est-à-dire que nous avons toujours entretenu de très très bonnes relations et c'est les deux seuls pays qui n'ont jamais été en conflit depuis 1781 parce qu'aujourd'hui les États-Unis dialoguent avec l'Espagne, avec l'Angleterre, mais ils ont eu des périodes très compliquées, alors que ce n'est pas le cas pour la France. Et c'est vrai que cette amitié qui existe entre la France et les États-Unis, elle est forte et elle est sincère.
Oui, pardon, je voulais pas vous couper, Jérôme. Mathieu, est-ce que voilà, dans le parcours scolaire étudiant d'un élève, le français, ça fait partie des langues qui sont assez étudiées, qui sont où la culture française, comment elle est représentée, comment elle est abordée dans le cursus scolaire américain états-unien?
Je dirais beaucoup moins aujourd'hui, ouais. Malheureusement. Pour donner un exemple, même mon lycée, mm-hmm. Il y a plus de choix. C'est uniquement l'espagnol. Il n'y a plus de département de français.
Ok.
Donc, c'est beaucoup moins présent, ce qui est dommage. Et pour nous, c'est juste... Je pense qu'il y a beaucoup moins d'accès au français aux États-Unis. Ce qui est fou parce que quand même, Montréal, c'est pas très loin.
Ouais.
Il y a pas mal de franco-canadiens.
Et puis, on pense à la Nouvelle-Orléans qui a encore gardé une aussi. Vraie culture francophone, française en tout cas.
Ouais. Mais non, c'est plutôt le chinois et l'espagnol.
Et l'espagnol, ouais. Ok.
Par contre, dans les cours d'histoire, bien sûr, on apprend tout sur la France et tout ça.
Mathilde ?
Oui, on parle du coup un peu de la vision des États-Unis par rapport à la France. Mais est-ce que, et surtout ces dernières années, vous avez vu du coup une transformation de la vision du public français par rapport aux États-Unis ?
Oui.
Alors, la question est difficile pour moi en tant que président de l'association France-États-Unis parce que...
On ne voudrait pas vous mettre en difficulté, Jérôme.
Non, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes une association culturelle et on sait que la relation entre deux pays se fait essentiellement entre les peuples. Et donc, j'irai, quel que soit le locataire de la Maison-Blanche, aujourd'hui, notre programme d'activité, l'effectif, le nombre de membres que nous avons dans notre association ne varie pas. C'est vrai que là, c'est quelque chose qui est... compliqué pour moi de répondre parce que je ne le perçois pas, en tout cas au sein de l'association et par rapport à nos activités et aux relations qu'on a avec nos amis américains.
Mathieu, si vous voulez ajouter quelque chose ou pas.
Je pense que je parle plutôt pour peut-être la majorité des Américains. On adore les Français et la culture. Mais je pense que depuis 2001, ça a changé un peu. Et surtout les guerres au Moyen-Orient et tout, ça a changé parce que la France, de notre avis, n'était pas vraiment là pour nous.
Bah, on a dit non, hein, effectivement, on se souvient.
Et même, je me souviens, j'étais jeune, donc pour nous, frites, en anglais, c'est,
c'est
French fries.
Ouais.
Et en fait, il y avait une petite manifestation.
Je me souviens de ça, effectivement.
On a changé le nom, en fait. C'était plus French fries, c'était les frites de la liberté.
Ouais, c'est ça.
Ça, c'est la traduction, mais Freedom Fries.
Ouais, Freedom Fries. Ouais.
Et pareil avec les sandwichs, il y avait des petits trucs qu'on a changé. Et puis je pense qu'on a plus récent, il y avait des petits problèmes avec la vente des sous-marins. Mm-hmm. Et
oui,
du coup, je pense que les Français étaient vraiment vexés avec la vente. Et on a changé dernière minute et on a donné le contrat aux Australiens. Mais sans annoncer, les Français étaient en train de travailler sur le contrat depuis 5 ans, même plus.
Et voilà. C'est vrai qu'il y a quelques périodes de tension, mais comme nous sommes des amis, et c'est important d'insister, nous sommes vraiment des amis, c'est rare que deux pays parlent vraiment d'amitié comme la France et les États-Unis le font. Et bien, comme dans une famille, des fois il y a des moments, des sujets qui fâchent ou des périodes un peu plus compliquées, malgré tout on se retrouve toujours autour de la table. Et vraiment quand il faut défendre des valeurs comme la liberté, la démocratie, la justice, on se retrouve tout le temps et on est toujours dans les mêmes combats côte à côte. Et je dirais que quels que soient les présidents français et américains.
Il est incassable ce lien pour vous ?
Aujourd'hui, il est tellement fort que pour moi, il est incassable. Et en tout cas, l'année 2026 va le démontrer une fois de plus, puisque c'est ce qu'on appelle America 250. Les États-Unis vont développer le culte du 4 juillet 1776 avec la déclaration d'indépendance. Et il va y avoir une déclinaison sur le territoire français, et y compris dans le Loir-et-Cher et à Blois, pour rappeler la contribution de la France à l'indépendance de l'Amérique. Et donc, aujourd'hui, franchement, il faut toujours être prudent, mais quand on est amis, normalement, on ne se fâche pas sur un sujet. Et ça, c'est depuis 1781.
Et Jérôme a touché du bois, littéralement, pour signifier son espoir que ce lien ne se perde pas. On va rentrer dans le vif du sujet. Avant de parler de cette première année de nouvelle mandature de Trump, un rappel, je pense que c'est important, et on va essayer d'être concis, messieurs, avec un rappel du système démocratique états-unien, donc avec le système des grands électeurs, du gerrymandering, et puis du bipartisanisme historique qui a peut-être éclaté. On va glisser gentiment vers ce que Trump a provoqué justement sur ce bipartisanisme. Est-ce que Jérôme, vous voulez vous lancer sur les grands électeurs, sur ce qu'ils représentent et comment fonctionne cette élection présidentielle qui ne ressemble vraiment pas à la nôtre?
Ah, tout à fait, c'est un processus qui appartient vraiment qu'aux Américains, un processus plutôt...
C'est une commande, ces grands électeurs, enfin, ou presque en tout cas.
En tout cas, à mon niveau, je pense que oui. Okay. En tout cas, c'est un processus assez compliqué, assez long, puisque ça dure pratiquement 18 mois de campagne, où nous avons donc, pour faire très simple, deux partis, les démocrates d'un côté, on va dire, de couleur gauche pour les Français, parce que c'est pas tout à fait ça, et Mathieu va nous l'expliquer, et puis de l'autre côté, les républicains, donc on va dire... à droite. Donc ces deux partis-là, eh bien, organisent des primaires pendant à peu près 18 mois pour choisir un candidat ou une candidate qui va porter leur couleur et leur programme. Sur les lignes de départ, il y a plusieurs candidats. Du côté démocrate, ils sont assez nombreux, contrairement aux républicains. Ça s'explique aussi, mais peut-être que Mathieu sera le mieux placé pour l'expliquer. Donc une course de primaires. Trois mois avant l'élection, eh bien, il y a les conventions où là, on connaît réellement le nom des candidats démocrates et républicains avec leur programme. Et après, c'est la course aux grands électeurs, parce que lors du vote du mois de novembre, eh bien, il faut que le camp républicain ou le camp démocrate, en tout cas, obtienne le plus de grands électeurs, puisque c'est un suffrage indirect. Le camp candidat qui va être élu, c'est pas celui qui a pas forcément le plus de voix dans l'île de Loire, puisque c'est le système des grands électeurs avec un nombre de grands électeurs défini en fonction de la population dans chaque état. Et il y a des états qui comptent moins, alors que d'autres comptent un peu plus de grands électeurs. Je pense tout de suite au Texas. Tout le monde veut avoir le Texas. Donc aujourd'hui, le Texas est républicain, mais vous imaginez, c'est 40 grands électeurs sur 538. Donc il y a vraiment une stratégie pour se positionner. Et parmi ces 50 États, c'est 51 États au niveau électoral, puisque il y a Washington DC qui est aussi un État, une zone électorale.
C'est une ville et un État fédéral.
C'est un État électoral. C'est-à-dire que... parmi les États, c'est the winner takes all. Il faut qu'à la fin, le candidat républicain ou démocrate puisse sortir par rapport à ces 538 grands électeurs qui existent. Et donc, certains États sont plus importants que d'autres. Mais je dirais que tous les États sont importants, puisque lorsqu'on regarde la campagne de 2017, quand Hillary Clinton a perdu, elle a perdu de très peu, et tout simplement parce que dans la dernière ligne droite, elle a fait abstraction de petits États comme le Delaware, il me semble, où il n'y a que trois grands électeurs sur 538. Et donc, cette course présidentielle, il faut que tous les candidats soient extrêmement attentifs à leur campagne pour pouvoir avoir le maximum de chances de remporter cette grande élection.
Mathieu, vous voulez rajouter quelque chose sur les grands électeurs?
Oui, je pense que j'aimerais préciser que les États-Unis, c'est pas une démocratie en soi.
Au sens où on l'entend, nous.
Ouais. Ouais. Le terme, c'est démocratie constitutionnelle. Mm-hmm. Et du coup, c'est pour ça qu'on ne vote pas forcément pour la personne. Oui. Et du coup, ce n'est pas les votes qui comptent, finalement.
C'est pas une démocratie directe. Hein,
c'est ça, mm-hmm. Oui. Mm-hmm. Et donc, parlant de Hillary Clinton, elle avait gagné la vote populaire. Par contre, elle n'a pas gagné l'élection. Donc, voilà, cas d'école.
Je voudrais qu'on enchaîne sur donc, ce gerrymandering, un terme complètement barbare pour un Français.
C'est très important.
Vital pour justement c'est les élections présidentielles, même si le gerrymandering ne concerne pas les grands électeurs, mais des districts, je crois.
C'est ça.
Prière de nous expliquer, Mathieu, alors.
Rapidement. Du coup, bien sûr, les populations changent. Les gens déménagent, surtout aux États-Unis. On peut bouger et déménager où on veut, sans problème. C'est très facile de changer de ville et d'État. Mm-hmm. Et du coup, on a des census, ça s'appelle, quand on demande combien de gens il y a par...
des sondages, ouais, sondage, ou du recensement.
C'est ça. Mm-hmm. Et donc, mais entre-temps, bah, bien sûr, des choses changent. Donc, ce que les politiques essaient de faire, c'est de couper les villes par rapport aux quartiers qui sont peut-être plutôt avantageux pour eux ou pour l'autre équipe. Et du coup, ils font en sorte qu'ils vont refaire les lignes pour gagner les plus de votes possibles, pour éventuellement changer la vote de l'État. Donc, par exemple, on peut prendre une grosse ville comme New York. Il y a pas mal de petites villes et du coup, imaginons, quelqu'un dit « Ok, on va refaire le district de New York. On va tout le monde est ensemble et voilà, on prend ça parce qu'on va gagner tous les votes. Bah, » est-ce que ça c'est intéressant ? Ça dépend. Pour qui ? Et donc, c'est un peu ça le débat. Et le problème, c'est que c'est souvent les personnes qui ont la majorité qui décident. Donc, actuellement, ce n'est pas les démocrates. C'est les républicains parce qu'ils ont la majorité.
Ils pourraient accentuer leur pouvoir en redécoupant les circonscriptions de chaque État pour avantager des votes dans des petits blocs.
Et c'est complètement légal grâce à la Constitution.
Oui. Alors c'est légal et c'est l'actualité aujourd'hui aux États-Unis. C'est-à-dire que Donald Trump a très peur des élections midterms qui vont avoir lieu donc en 2026. Et donc en ce moment, les républicains sont en train de faire un redécoupage. Exactement, un redécoupage électoral.
Justement, les partis, rapidement aussi, donc le bipartisanisme historique entre les démocrates et les républicains. Est-ce qu'on vous pouvez, Jérôme, l'expliquer un petit peu comment voilà, ce seulement deux camps, on va dire, hein, les candidats indépendants à la présidentielle n'ont jamais réellement existé dans le débat public. Comment s'explique, pareil, cette chose chez nous qui serait inconcevable d'avoir seulement deux partis qui se présenteraient à des élections présidentielles, même si longtemps ça a été aussi les gros partis de gauche et les gros partis de droite qui se sont partagés le gâteau, mais il a toujours existé une grosse diversité de partis. Est-ce que vous êtes en mesure d'expliquer, ou peut-être Mathieu, mieux que vous, d'expliquer cet historique du bipartisanisme ?
Oui, je peux commencer, si vous voulez. Oui, je pense que ça existait.
Ouais.
Et moi, je suis né en 1991, et je l'ai connu au début. Je dirais que c'était peut-être à partir de 2000, et l'élection de Bush fils, le junior, et la guerre, il y avait beaucoup d'Américains qui étaient avec la partie droite, donc les républicains, justement pour la guerre. Parce qu'on nous a vendu une histoire que, voilà, il y a des armes qui pourraient détruire tout le monde et il faut qu'on réagisse, quoi. Tout le monde a été vendu sur cette idée et on n'a jamais trouvé ces armes.
C'est vrai.
Pour préciser.
Rappelons-le.
Ouais. Et je pense, à partir de ça, et les guerres au Moyen-Orient, ça a commencé à changer et il y avait des divisions entre les deux parties. Et du coup, l'idée, c'est souvent, on est d'accord sur pas mal de choses, les Américains, sur tout ce qui nous concerne et qui nous touche tous. Chaque journée, je pense que tout le monde est d'accord. L'immigration, au début, tout ce qui est aide, chômage, je pense que tout le monde est plus ou moins d'accord là-dessus. Par contre, où ça commence à changer maintenant, on n'est plus d'accord sur presque rien.
Ouais. On y reviendra sur les témoignages que Mathilde a collectés. Ouais.
Et donc, je pense que ça n'existe plus. C'est pour ça que rien ne fonctionne. Et je pense que vous allez parler plutôt de...
du mouvement MAGA.
Oui.
Et justement, donc, ce mouvement MAGA que Trump a formé, a initié, il est partie quand même, je crois, du parti républicain. Et on a l'impression, ici en tout cas en France, qu'il s'en est détaché, qu'il n'en est plus vraiment une émanation et qu'il a acquis une certaine forme d'indépendance, comme voilà, pour, d'un mouvement plutôt d'extrême droite, hein, disons-le, qui s'est détaché du parti républicain. Est-ce que c'est une vision que vous partagez ou pas vraiment, Jérôme? Alors, est-ce qu'il est encore ancré? Est-ce que le mouvement MAGA est encore ancré dans le parti républicain?
Est-ce que même on peut dire qu'il a dépassé en fait la sphère politique?
Enfin, est-ce qu'il a dépassé la sphère politique?
C'est carrément un mode de vie.
J'ai pas cette grille d'analyse. Pour moi, le Trumpisme fait partie des républicains, mais c'est une sensibilité, et donc le Trumpisme, c'est le Trumpisme. Mais la victoire de Donald Trump s'est faite par rapport à sa couleur de politique, donc républicain. Il a eu 76 millions d'électeurs sur son nom et son programme, un programme républicain. Après, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il est un électron libre dans le sens où il fait le show. Et donc derrière, tout est autour de son nom et de sa personne et de son image. Parce que quand j'ai dit il fait le show, c'est un ancien animateur de télé. Il le fait très bien, il le fait toujours. D'un autre côté, quand il fait son rapport de force avec tous les gouvernements de
le reste de la planète,
de la planète, il fait le businessman, c'est le rapport de force. Ouais. En américain, on dit je veux un deal, donc il veut des deals. Et donc derrière, il a trouvé le slogan Make America Great Again. C'est son slogan. Pour autant, je peux pas dire que ça soit un courant politique à part entière. Il est républicain.
Et il incarne les valeurs républicaines encore historiques.
Alors,
Mathieu n'a pas l'air d'accord, mais Jérôme répondait, puis je vais laisser la parole à Mathieu après.
Alors, il veut être, entre guillemets, le restaurateur du conservatisme, à la fois politique et religieux. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau par rapport aux 50 dernières années, même
de conservateur, de républicain historique, George Bush.
Tout à fait, mais même après la Seconde Guerre mondiale, Eisenhower, quand on regarde son parcours, il était très prononcé. Il faut savoir que Eisenhower, c'était le premier président des États-Unis à avoir récité une prière lors de son discours d'investiture.
C'est vrai qu'on en a parlé.
Imaginez ça aujourd'hui avec Donald Trump, je pense que ça passerait pas. Et là, c'était Eisenhower juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc, j'irai à chaque époque, on a des républicains très engagés. Après, je pense qu'il reste vraiment dans l'esprit républicain, trumpiste.
Mathieu, vous vouliez réagir. Est-ce que Trump incarne les valeurs historiques du parti républicain?
Non. Parce qu'il faut qu'on se dise une chose. Donc, les conservatifs aux États-Unis, c'est pour conserver le document sacré chez nous, donc la Constitution. Donc, normalement, c'était la partie de justement ça. Sauf que c'est plus l'actualité. Parce qu'ils gouvernent pas avec... avec les valeurs et la Constitution en tête. Pour lui, c'est les émotions, la rage, et c'est pas bien étudié ce qu'il fait, ni réfléchissait. Ou réfléchit, pardon.
Pas de souci.
Et donc, je pense qu'on est beaucoup loin de ça. Et je dirais plus maintenant. Même les gens autour de lui, ce sont plus des conservatifs qu'on est avant.
Le discours s'est radicalisé.
Tout à fait.
Ouais.
Alors, c'est vrai que je partage le point de vue de Mathieu, parce qu'aujourd'hui, on arrive pratiquement à dire que Trump devient le nationalisme conservateur, le nationalisme même chrétien, c'est-à-dire que la religion, et même s'il y a une séparation de l'État et de l'Église, aujourd'hui, la religion est très, très omniprésente.
Qu'il soit démocrate ou républicain, les présidents américains ont toujours juré sur la Bible pour prendre une fonction. Donc,
tout à fait, ça c'est l'histoire.
La religion est au cœur de la Constitution américaine, quand même.
Ce qui est intéressant.
Mais ça se limitait à ça. Alors qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les républicains Utilisent vraiment la religion dans leur action. Il faut savoir que depuis Eisenhower, hein, c'est aussi Eisenhower qui a lancé ça, on parle du National Prayer Breakfast, hein, qui est la journée où les religions, dont toutes les pratiques confessionnelles se réunissent à la Maison Blanche. Cette tradition, elle est toujours respectée, si ce n'est qu'aujourd'hui, Donald Trump a modifié cette tradition en parlant de bureau de la foi. Et donc, quand on dit bureau de la foi, on se limite uniquement à la chrétienté. C'est-à-dire qu'il a complètement écarté les autres religions. Et donc là, on peut dire qu'il y a une certaine dérive qui existe.
Au niveau citoyen, comment Matthew, puisque vous étiez encore sur le sol américain lors du premier mandat de Trump, est-ce que c'est à ce moment-là que, et avec l'émergence du mouvement MAGA, que cette radicalisation des citoyens, en fait, au-delà de Trump lui-même, qui a radicalisé et qui a organisé beaucoup plus de clivages, est-ce que vous l'avez constaté, vous, Matthew, en tant qu'américain vivant pendant ce premier mandat de Trump?
Tout à fait. Ouais. J'étais prof au lycée à l'époque.
Donc, je l'ai vu dans le service public, que Trump déteste, hein, a priori, le service public, globalement.
Oui, et c'était très compliqué. Parce que même les élèves, à l'époque, on va dire qu'ils n'étaient pas les plus étudiés, un peu naïfs, jeunes, ce qui est normal. Mais c'était tellement chargé, même entre les élèves. Il y avait des camps d'élèves et on n'a pas vraiment vu ça. Même quand j'étais jeune, on n'a pas vraiment vécu ça. Donc, on savait que c'était différent. Mais j'étais naïf. Je pensais qu'il n'allait pas passer la première fois. Je me suis dit, c'est impossible.
Et il a perdu de peu, hein, comme on disait tout à l'heure. Puis, il n'a pas eu le vote populaire. C'était les grands électeurs qui ont joué. Immigration, économie, emploi, il s'est vanté sur tous les tableaux. Alors, on pourrait dire que cette bonne guerre et que chaque chef d'État, hein, dans un système démocratique, vanterait ses propres bilans. Donc, on ne peut pas imputer à Trump des choses qu'on pourrait critiquer à nous-mêmes ici. Il n'empêche que le taux de chômage est à son plus haut depuis 4 ans, donc il y a quelque chose quand même qui se joue, même s'il y a eu des nouvelles, c'est un peu remonté en novembre, alors il y a eu un shutdown qui a empêché d'autres chiffres de sortir, mais il y a eu beaucoup de pertes d'emplois dans le secteur public. Je voulais vous lire un extrait, alors je voulais en faire un plus gros extrait, mais je vois que le temps file, c'est passionnant, mais ça va vite. Un court extrait du speech qu'il a délivré hier soir aux États-Unis. Les salaires augmente beaucoup plus vite que l'inflation, plus encore, 100% de tous les emplois créés depuis que j'ai pris mes fonctions l'ont été dans le secteur privé. Pensez-y, je cite, hein, parce qu'il a beaucoup de phrases d'interjonctions comme ça. 100% de tous les emplois se trouvent dans le secteur privé plutôt que dans le service public. Seul moyen de rendre un pays puissant et grand, cette tendance historique va se poursuivre. Donc là, il parle du service public. Donc on voit bien que le service public ne l'intéresse pas et qu'il a une vision donc ultra-libérale et sa personnalité d'entrepreneur des années 80 et 90 est largement et entièrement incluse dans son fonctionnement de président des États-Unis.
Ça transpire, transpire. Mais c'est un chef d'entreprise, hein. Il est à la Maison Blanche.
Il gère un État fédéral comme il gérait ses entreprises avant de devenir président.
En tout cas, c'est sa manière d'être. Il est imprévisible au niveau de son comportement. En revanche, il est très prévisible au niveau de son programme puisqu'il le décline à la lettre. Ouais. Là, par contre, il ne déroge pas à la virgule près. Il applique son programme. Vous avez abordé l'aspect économique. Sa position, elle est comme tout président des États-Unis. C'est America first, hein. Il n'y a pas de loup, c'est America first. Et là, derrière, lui, il dit « Buy American, hire American ». Il faut acheter américain, il faut embaucher américain. Et donc, derrière, il décline. Il décline.
Alors, effectivement, on pourrait embaucher des Américains dans les services publics, l'un n'empêche pas l'autre.
Alors, attention, oui, les services publics, c'est bien les Américains qui sont manettes, puisque le propre des États-Unis, c'est qu'une entreprise qui voudrait embaucher une personne qui n'est pas américaine doit justifier qu'elle n'a trouvé personne avec la nationalité américaine pour le poste. Donc,
c'est pareil en France, si je ne me trompe pas. faut se justifier.
C'est, ouais. Alors, c'est pas géré de la même manière. Hein, aux États-Unis, c'est très procédurier et donc une entreprise ne fait pas ce qu'elle veut au niveau du recrutement. Et donc, effectivement, Donald Trump veut faire le retour à la Grande Amérique avec sous l'angle économique. Mmh. Et après, la personnalité fait que il est dans le rapport de force, donc il veut des deals. C'est pour ça qu'il avait annoncé dans son programme qu'il dirait que des droits de douane qui vont être négociés, il l'a fait. Et donc aujourd'hui, tout le monde en pâtit. Et en fonction des pays, en fonction des secteurs d'activité, les droits de douane sont différents.
On en reparlera après une courte pause musicale. On s'écoute deux artistes farouchement anti-Trump, Joe Grusecki et Bruce Springsteen. C'est parti. They come from everywhere, I long to be free. They come to join us here, from sea to shining sea. And they all have a dream, as people always will, to be safe and warm in that shining city on the hill. What makes us great? Don't tell me a lie and sell it as a fact. I've been down that road before and I ain't going back. And don't you brag to me that you never read a book. I never put my faith in a con man and his crooks. I won't follow down that path and tip the hands of fate. I'll let you turn this thing around before it gets too late. It's up to me and you. Love can conquer hate. I know it's to be true. That's what makes us great. In the quiet of the night, I lie here wide awake, and I ask myself, is there a difference I can make? Is there a difference I can make? It's up to me and you. Love can conquer hate. It's up to me and you. Love can conquer hate. It's up to me and you. Love can conquer hate. I know it's to be true. That's what makes us great. À la fois une pure chanson de rock américain classique, mais une vraie critique du Trumpisme, chanson sortie à la fin du premier mandat de Trump, qui n'a donc, on le sait maintenant, pas empêché de revenir à la Maison-Blanche 4 ans plus tard. Joe Grusecki avec Bruce Springsteen. Je suis en compagnie de Jérôme Danard et de Matthew, donc Jérôme Danard, président de l'association d'amitié franco-États-Unis ici à Blois, et Matthew, citoyen américain installé à Blois depuis 5 ans. Chaque semaine, la lorgnette vous fait une recommandation, un podcast, un documentaire, un extrait de film ou de série. Cette semaine, Mathilde, qu'est-ce que tu nous présentes ?
Alors du coup, on a choisi la série documentaire High School Radical, qui est disponible sur Arte. Et on a fait un petit montage donc, de témoignages de 4 Américains, donc tous diversifiés avec des histoires et backgrounds différents. Le premier, ça va être Brittany. Alors aussi à noter que les témoignages ont été faits avant la deuxième élection
ouais,
de Trump.
Et tu nous rappelles dans quel contexte cette série documentaire est faite ?
Ça a été tourné à Oklahoma. Voilà, dans une ville très trumpiste, on pouvait voir sur les images, dans les jardins des gens. Et du coup, le documentaire a été réalisé 2 mois à peu près avant l'élection de Trump.
Par un Français qui était lycéen il y a quelques années, c'est ça hein,
ouais, voilà. Qui a vécu aux États-Unis juste avant la première élection de Trump en plus.
On écoute, alors dans l'ordre, vas-y dis-moi, parce que c'est moi qui lance les sons.
Ça va être Brittany, donc c'est une de ses premières années, premières amies qu'il a rencontrées au lycée. Elle est, alors je ne sais pas si on peut dire qu'elle est démocrate, mais en tout cas elle n'est pas trumpiste, et elle donne son avis sur l'élection.
J'avais un copain en terminale, ça a duré 4 ans. Il était plutôt conservateur, mal dominant. Pas le genre de mec avec qui je voulais être. J'ai l'impression qu'on voit un nouveau niveau de clivage qu'on n'avait jamais vu par le passé. Avant l'ère Trump, il y avait des candidats avec qui on n'était pas en accord, mais je peux respecter cette personne. Mais ces dernières années, le sentiment n'est plus le même. On ne voit plus ça. Je redoute une montée du nationalisme blanc. On voit déjà les néo-nazis apparaître. Oui, j'ai peur qu'il se passe des choses terribles. On peut acheter un semi-automatique, vider le chargeur en 10 secondes dans un magasin et tuer des centaines de personnes. Cette possibilité ne devrait pas exister pour personne. Avec les conservateurs, on fait face à un recul dans l'éducation. L'histoire se répète. Et si on ne cherche pas des leçons de ce qui s'est passé, on est condamné à répéter les mêmes erreurs. Même si j'aimerais croire qu'une guerre civile n'est pas imaginable, on assiste à ce cercle vicieux où les nouvelles générations sont de moins en moins éduquées. Et c'est ce qui fait que certains rejoignent des groupes de gens les plus extrêmes et dangereux. Et tout ça va à l'encontre des États-Unis. On ne sera plus les États-Unis. J'espère qu'on n'en arrivera jamais là. Je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas voir ce genre de division.
Je pense un commentaire de la part de Matthew. Est-ce que ce discours il résonne ? Et est-ce que vous êtes d'accord avec le terme de guerre civile employé ? Parce que moi, du coup, ça m'a directement fait penser à l'assaut du Capitole qui avait lieu en 2021. Et d'ailleurs, dont les attaquants ont été graciés par Trump au début de son mandat.
Merci d'avoir évoqué ça. C'est très important. Et parce que c'est réel, ça s'est passé. Oui, je pense que tout ce qu'elle dit est la réalité. Et je partage aussi ses craintes et ses peurs. Oui, tout à fait.
Jérôme, si vous voulez réagir.
Moi, je voudrais juste réagir par rapport aux armes à feu. Effectivement, c'est un vrai sujet aux États-Unis, mais malgré tout, ça fait partie de leur culture. Ce sont des pionniers à la base qui ont traversé l'Atlantique. Ils se sont installés dans un environnement qui était assez hostile, même s'ils ont eu une belle rencontre avec les Indiens. Puis après, il y a eu la conquête de l'Ouest. Donc, le fusil, entre guillemets, fait partie de leur culture. Effectivement, utiliser les armes à feu pour tuer. Des civils, ça c'est inadmissible, mais l'arme à feu, c'est vraiment comme le couteau pour un Corse, il faut bien intégrer ça et pas regarder les États-Unis toujours avec le prisme français.
Bien sûr, évidemment. Vas-y, Mathilde.
Vous pensez pas quand même qu'il y a eu une libération de ces actes justement de porter l'arme à feu ? Parce que dans le reportage, il y avait des extraits où c'était des rallyes et vraiment ils avaient tous l'arme à feu, voilà, qu'on pouvait voir, n'importe qui peut leur prendre des... Enfin, quand même, avec cet air Trump qui met tout ça en avant, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose où ça se libère encore plus ?
Moi, j'ai pas forcément l'impression. Aujourd'hui, on fait un focus au niveau médiatique parce que c'est quelque chose. En tout cas, nous en France, on n'a pas l'habitude de connaître parce que c'est pas du tout notre culture. Après, est-ce que dans certains quartiers, il y a une concentration de personnes à avoir des armes à feu et une excitation par rapport à ces armes à feu ? Peut-être. Je peux pas le nier, mais je pense pas que ça soit. Tous les États-Unis, là aussi. Hein. C'est un peu comme quand on dit Paris, c'est la France. Non, Paris, c'est Paris. La France, c'est la France. Pour les États-Unis, New York, c'est New York. C'est pas les États-Unis. Bon, donc restons prudents dans le fait de vouloir globaliser l'utilisation de l'arme à feu.
On rappelle que, je crois, Barack Obama était le dernier président en date à avoir essayé de s'attaquer à ce fameux deuxième amendement sans aucun succès. J'ai pas l'impression que les présidents républicains ce soit clairement quand même la régulation des armes à feu, puisque on rappelle que les États-Unis sont quand même le premier pays occidental où le nombre de morts par arme à feu est le plus élevé. Donc c'est quand même un problème que des Américains, des États-Unis soient tués sur leur propre sol par d'autres États-Unis. On parle jamais de guerre civile, mais il n'empêche qu'il y a des morts entre Américains.
Tout à fait.
Donc on a l'impression que pour le Parti républicain, ce fameux second amendement, le premier amendement, c'est la liberté d'expression, et le deuxième amendement, c'est le droit de posséder une arme. J'ai l'impression que du côté des républicains, le port de l'arme à feu est au-dessus de tout, et du coup, si on règle pas cette question, j'ai l'impression que les tueries ne s'arrêteront pas.
Ouais. Vous savez, c'est comme pour les chasseurs en France, il y a le chasseur qui ne fera pas de vagues, et puis parmi le lot, il y aura un chasseur qui fera une bêtise, et on aura les projecteurs sur ce chasseur-là.
Avec des proportions bien moindres, malgré tout.
Tout à fait.
Deuxième témoignage, Mathilde.
Le deuxième témoignage, il a été recueilli justement lors d'un rallye pour Trump. C'est le témoignage d'une mère qui explique être trumpiste et sa fille soutient Kamala.
Et vous les gars, c'est quoi votre histoire? Vous venez d'où? D'ici, d'Oklahoma. On ne peut pas parler de politique avec ma fille, car elle soutient Kamala. Du coup, je lui dis, arrête de me parler politique, je ne veux pas le faire avec toi, je suis désolée. Pourquoi penses-tu qu'elle la soutient? C'est une féministe. Elle est de gauche. Et elle croit en ce que Kamala propose. Et elle n'a jamais soutenu Trump. Vous parlez toujours? Oui, on parle toujours. On est très proches, mais je refuse de parler politique avec elle. Je lui ai dit d'arrêter. J'aime ma fille et je ne veux pas me brouiller avec elle.
On voit le clivage qui s'est fortement installé, Mathieu.
Ouais.
Est-ce que c'est une situation que vous pourriez vivre avec de la famille ou des amis d'ailleurs qui sont aux États-Unis?
Bah oui, c'est devenu un sujet. Et on ne peut pas évoquer ces sujets parce qu'on a peur de savoir ce que l'autre pense en fait. Et même pire, c'est parce que maintenant on a quelque chose qui s'appelle identity politics. Ça veut dire que ça fait partie de votre identité et votre image en fait. Donc si vous êtes à gauche ou à droite, bah, ça veut dire que vous êtes bleu, vous êtes rouge. Et donc, ce ne sont pas les mêmes couleurs. Et du coup, il y a des divisions. Et on a peur justement de voir et mettre en plein air ces différences.
Elle est possible, cette séparation entre la politique et les affinités? Parce que c'est aussi un débat qu'on a en France avec la liberté d'opinion. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, c'est encore plus grand, avec la politique prenant plus de place dans le mode de vie. Je pense que nous, voilà, si on passait à une politique RN, ça serait la même chose, mais on n'y est pas encore, donc peut-être c'est un peu moins pareil. Mais du coup, c'est possible ou pas?
Je sais, je pense pas. Et on est très, très sportifs aussi, donc on aime bien nos équipes. Et bah, les partis politiques sont devenus nos équipes maintenant. On porte des couleurs, on décore nos maisons pour les élections, et on a des énormes drapeaux partout, même sur nos voitures.
C'est vrai, oui.
Les casquettes maintenant, c'est partout. Donc.
Au sein de l'association, alors l'association est apolitique, on le comprend bien, donc je ne vous demande pas forcément une prise de position, mais la notion du clivage, vous l'avez senti, vous êtes, j'imagine, dans cette association depuis suffisamment longtemps pour voir que le débat, la nuance se sont peut-être un peu distendues, la notion de nuance dans les conversations politique malgré tout.
Le clivage, il est naturel dans le sens où il y a deux partis. Il y a donc d'un côté les républicains et de l'autre les démocrates.
Mais à ce point-là, c'est ça en fait ma question. Alors, le clivage, effectivement, il a toujours existé. Est-ce que Trump n'a pas accentué ces clivages et rendu impossible du dialogue et du débat?
Non, mais c'est vrai qu'avec un petit peu de recul, Donald Trump parle des ennemis de l'intérieur. Mm-hmm. Et dans les ennemis de l'intérieur, il y a l'opposition. Donc forcément, c'est dommage de considérer l'opposition comme un ennemi. On n'est pas forcément d'accord. C'est pas pour autant qu'en face, la personne doit être tout de suite cataloguée ennemi. Mm-hmm. Et ça, c'est vrai que ces mots, je veux dire, quand on utilise le mot ennemi, c'est des mots forts. Et donc Trump a clivé la population américaine, ça c'est une évidence. Mais après, le fait d'avoir deux groupes se rassemblent sur certains points mais qui ne s'entendent pas sur tous les sujets, ça a toujours existé, et puis c'est le propre de la politique aussi.
Mais s'engueuler, voilà, la fameuse engueulade au moment du repas de Noël, elle a toujours existé. Mais là, j'ai l'impression qu'on évite de parler pour pouvoir s'engueuler, puisque les positions sont tellement différentes et radicales.
Et très radical, parce que des idées différentes ne doivent pas poser de problème, mais là, c'est parce qu'on arrive à des idées radicales.
Et ça joue les tocas, mais surtout, on meurt pour nos idées. Enfin, du coup, là, je pense à l'assassinat de Charlie Kirk, c'est son soutien à Trump et ses propres idées à lui qui l'ont tué. Donc, le clivage, est-ce que c'est possible de revenir en arrière?
Oui, alors là, par rapport à Charlie Kirk, il y a aussi la religion derrière. Il faut savoir
on peut parler en début d'émission.
Oui, Donald Trump fait une fixation avec la religion, à mes yeux, puisque on va juste parler de sa tentative d'assassinat qui a échoué, et pour lui, il a été épargné grâce à Dieu. Et donc derrière, il se sent missionnaire par rapport à la chrétienté. Et donc derrière, il est pour ce conservatisme religieux à outrance. Et donc il ne s'en cache pas. Pourtant, derrière, au niveau des États-Unis, il y a bien la séparation de l'Église et de l'État. Donc on peut se poser, effectivement, à juste titre, la question de la neutralité confessionnelle du président des États-Unis. Ça, c'est vrai.
On continue, le temps file. Troisième témoignage,
Mathilde. Donc c'est toujours un de tes amis du lycée, lui par contre, qui a voté pour Trump ou qui souhaite voter pour Trump à cause de la crise économique.
Je n'ai pas été augmenté, même si les prix ont augmenté drastiquement. J'étais à l'aise et maintenant je ne le suis plus. Ça me fait flipper. Je n'ai pas le luxe de me préoccuper des grandes questions. C'est ça que je ressens. Oui, je suis pro-choix. Bien sûr, je pense que la décision d'abolir le droit à l'avortement était une mauvaise décision. Et des femmes vont mourir à cause de ça. Mais ça sonne égoïste, mais ce n'est pas mon problème.
Témoignage radical. Pareil, il vous surprend, Mathieu, ce témoignage ?
Oui, c'est triste.
Oui.
Parce que là, on parlait tout à l'heure de les divisions. Et il y avait un moment où on était tous d'accord là-dessus. Ou plus ou moins, c'est le droit de la femme et le droit de la personne, pas le gouvernement. Il ne faut pas oublier que la partie républicaine, c'était justement pour ne pas avoir trop de pouvoir pour le gouvernement. Mais là, maintenant, ils ont inversé les rôles. Et le gouvernement a le droit de dire à une femme ce qu'elle peut faire. C'est dingue.
Il y avait beaucoup d'Américains qui témoignaient comme quoi l'état économique du pays ont fait qu'ils ont voté pour Trump et qu'ils veulent se faire passer en premier, j'ai besoin de vivre, etc. Est-ce qu'on peut le comprendre ? Est-ce qu'on peut comprendre le fait de mettre tout ce qu'il y a à côté et de faire passer l'économie avant ?
Je comprends l'idée. Mais pour moi, ça, c'est juste un manque d'éducation. Et c'est un manque du monde réel dans lequel on vit. Et de se dire, ah ouais, il faut drill, baby drill. Bah, ça, c'est juste pour penser à l'argent, ce qu'on peut gagner demain, mais pas pour le futur et pour nos enfants.
Investir sur le moyen
sur le long terme. Ouais.
Jérôme, vous lui...
C'est sûr que pour les élections en 2024, le pouvoir d'achat a été déterminant dans la campagne parce que les Américains souffraient en 2024 et le pouvoir d'achat était de plus en plus faible et les Américains avaient des fins de mois assez difficiles. Donc ça a énormément joué et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont voté Trump parce que pendant le premier mandat de Trump, les indicateurs économiques étaient tous au vert. Donc qui se sont dit, effectivement, ça peut être possible d'avoir de nouveau une situation économique positive. Mais comme l'a dit Mathieu, effectivement, derrière, dans le programme de Donald Trump, il y avait d'autres choses qui pouvaient être choquantes, notamment par rapport à l'avortement, où déjà, sa prise de position n'a pas était très clair.
Non.
Ça n'a jamais été très clair à ce niveau-là. Ouais. Moi, quand je lis un peu ces prises de position, on sait simplement qu'il n'est pas pour les avortements tardifs. Alors, ça veut dire qu'il est quand même pour les avortements.
Mais il ne peut pas l'avouer.
Mais il ne peut pas l'avouer. Il peut pas
l'avouer. Et puis,
c'est un État, je veux dire, le pays, c'est un État fédéral. Et donc, derrière, tout n'est pas décidé depuis la Maison-Blanche.
On n'en a pas parlé, mais c'est un facteur important.
Et là, Donald Trump, je dirais, il s'en lave les mains. Mmh. Il dit ça, au final.
Ça l'arrange aussi, peut-être.
Oui, ça va être géré au niveau des États. Oui, mais il y a 50 États, donc ça veut dire 50 positions quelque part. 50 positions différentes.
Dernier témoignage, puisque le temps file, j'aurais pas le temps de faire la moitié des questions que je voulais aborder, Mathilde, vas-y.
Le dernier témoignage, c'est une jeune femme qui est venue sur le territoire américain illégalement avec sa famille pour fuir des menaces. Elle raconte pourquoi et elle raconte son avenir dans l'Amérique de Trump. Donc, le lycée. J'ai adoré le lycée d'Owasso. J'ai rencontré plein d'amis et ils sont partout sur mes réseaux.
Et ils postent des photos de leur mariage, de leur fin d'études, de leurs enfants. Je peux pas faire ça. Le cartel pensait qu'on avait de l'argent. Et comme mes parents n'ont pas pu payer ce qu'ils demandaient, ils ont déposé la tête de quelqu'un devant chez nous. C'était une menace. Je peux pas travailler légalement. Je peux pas voyager. Mon père me dit toujours, ne conduis pas à la limite à son vitesse. Conduis toujours 3 km/h en dessous. Évite d'attirer l'attention. Je suis atteinte d'endométriose et d'autres trucs. J'étais enceinte et un jour, j'ai fait une fausse couche à cause de mes problèmes. Mais quand j'y pense maintenant, si ça arrivait aujourd'hui, je pourrais aller en prison. Mais ça ne s'arrêterait pas là. Si ça arrivait, je me ferais expulser. Ce n'est pas juste la prison. Être une femme aux États-Unis, ça craint. Être une femme clandestine aux États-Unis, ça fait encore plus peur. C'est comme une crise de panique. Quand tu paniques, tu continues à avancer, mais tu ne peux plus respirer. C'est ça que je ressens. Les gens y passent et personne n'est au courant. Dès que je vois des flics, même si je sais que c'est pas pour moi, je me liquéfie littéralement.
Voilà pour ce dernier extrait donc de cette recommandation High School Radical, disponible sur Arte. Nous mettrons le lien vers ces 4 épisodes donc sur le site de podcast de l'émission. Un mot, Mathilde, sur l'ensemble de cette série documentaire. Je t'ai entendu choqué à la vision de l'ensemble du documentaire.
On n'a plus le temps, donc je ne pourrais pas en parler. Mais non, je la conseille parce qu'en fait, elle est choquante. Autant dans les propos que certains Américains peuvent avoir, autant dans les raisons qu'ils donnent pour voter à Trump. Et en même temps, il y a cette question de se dire, si moi j'étais aux États-Unis, qu'est-ce que je ferais ? Puisque le protagoniste lui-même, le réalisateur de la série, est allé à un meeting de Trump et en fait, s'est senti envahi par cette ferveur qu'il y avait autour de lui. Du coup, tout ça se pose la question, en fait, sans Trump, sans l'aura qu'il a, sans ce showman qui est en lui, qu'est-ce qui se passerait aux États-Unis aujourd'hui ?
Sur l'immigration, donc un extrait court aussi de son speech d'hier. Pour la première fois depuis 50 ans, nous assistons aujourd'hui à une migration inversée à mesure que les migrants rentrent chez eux, laissant davantage de logements et plus d'emplois aux Américains. L'année précédente, mon élection, la totalité de la création nette d'emplois était destinée aux migrants étrangers. Désolé, je prends un ton un peu cynique, mais je peux pas m'empêcher. Depuis que j'ai pris mes fonctions, 100% de toute la création nette d'emplois est allée à des citoyens nés aux États-Unis à 100%. Bon, on voit bien que c'est pas la vérité qui l'est. Enfin, Donald Trump, ce genre de chiffre me paraît littéralement impossible, mais ça fait partie évidemment de toute la sémantique de Donald Trump. Sur les personnes immigrées, l'immigration qui est un facteur de richesse pendant des décennies des États-Unis, comment elle a été vécue, comment elle s'est retournée, cette question de l'immigration depuis 6 ans maintenant du coup.
Maintenant, on utilise ce sujet comme point de division aussi. Mmh. Et on oublie, en fait, on est tous immigrés et immigrants. Et que America, les États-Unis sont connus pour être le melting pot. Ça veut dire que tout est fondu ensemble et voilà, notre culture, notre langue, notre nourriture, tout est mélangé avec les cultures ailleurs et d'autres, étrangères. Et donc, maintenant, de se dire, ah ouais, donc, ce sont les méchants de l'histoire, dommage. Mais chaque histoire a besoin de son propre méchant.
Jérôme, sur l'immigration, pareil, l'amitié franco-états-unienne s'est nouée aussi autour de ces migrations, de cet échange de ces Français qui ont investi le territoire, entre autres Français, qui ont investi le territoire états-unien. Donc, il y a quand même un retournement qui s'est opéré avec Trump. Non, pas plus qu'avec d'autres.
Il parle de l'immigration illégale. Ça fait malheureusement partie de son programme. Il a été élu. Il applique son programme. Et il le dit ouvertement. Son premier mandat n'a pas été suffisamment long puisqu'il pensait être élu tout de suite. Et il voulait aller jusqu'au bout de son programme avec la construction du mur au niveau du Mexique. Mexique. Donc, il fait du... Il fait du trumpisme, je ne peux pas vous en dire plus, on ne peut que le constater.
Par rapport à l'amitié, du coup, on parle aussi voyage, tourisme. Là, il a annoncé vouloir faire du coup une grosse recherche avant d'avoir la demande de visa aussi, hein. Sur les réseaux sociaux, sur la famille, etc. Du coup, on parle de cette amitié, mais elle est mise à mal.
Alors, Pour aller aux États-Unis, il a toujours fallu faire le formulaire qui n'était pas juste un document administratif. Il y a toujours une vérification. Là, il annonce la couleur en disant attention, si vous avez dit des choses plutôt méchantes à mon égard, comptez pas rentrer sur le territoire américain. Il annonce la couleur, mais dans les faits, on ne rentre pas aux États-Unis comme ça. Moi-même, qui suis président de France-États-Unis depuis plus de 20 ans, quand je suis allé dernièrement aux États-Unis, pour un peu, je restais coincé au poste de frontière. Parce que la personne voulait faire un cas particulier. J'expliquais, même si je n'ai pas l'accent américain, je me débrouille bien en américain. La personne ne voulait rien comprendre et ne comprenait pas pourquoi je voulais aller aux États-Unis. Et là, je me suis dit, mais c'est dingue, si Jérôme Danard peut pas rentrer sur le territoire américain, plus personne peut aller aux États-Unis quelque part. Donc ça, c'est typiquement américain aussi.
Et c'est payant.
Rapidement, sur la politique internationale et la diplomatie, Jérôme, d'un point de vue français, j'ai l'impression que ça a l'air compliqué de discuter avec Trump. Alors, est-ce que c'est compliqué de discuter avec l'administration Trump ? C'est un autre sujet, mais il souffle le chaud et le froid ou le passif agressif, on emploiera là les mots qu'on voudra. Est-ce que son langage change entre ce qu'il dit publiquement et les conversations qu'il peut avoir en privé quand il parle au téléphone avec un chef d'État, ou est-ce qu'il a un cabinet compétent en matière de relations internationales qui fait que ça n'a pas l'air si n'importe quoi que ça pour dire les choses clairement?
Je verrai le sujet différemment. Ouais. Je pense que pour les États-Unis, l'Europe est compliquée, puisque c'est pas lié à Trump. Même Barack Obama le disait lui-même. Lorsque les États-Unis souhaitent s'adresser à l'Europe, eh bien, on ne sait pas forcément à qui s'adresser. Est-ce qu'on s'adresse au président de la République française ? Est-ce qu'on s'adresse au chancelier allemand ? Est-ce qu'on s'adresse au premier ministre anglais ? Ça devient très compliqué. Et aujourd'hui, Trump est dans cette situation-là en disant l'Europe, vous êtes compliqué, vous voulez faire des choses mais vous ne donnez pas l'impression d'avancer, et lui, ce n'est pas son tempérament. Lui, il est un peu bulldozer, et donc là, il est en train de dire mais je ne comprends pas, vous voulez tous le cessez-le-feu mais vous n'avez pas l'impression de le démontrer. Et c'est vrai qu'avec un petit peu de recul, je lisais encore dernièrement la presse, on est au 19e train de sanctions au niveau européen par rapport à la Russie. 19e train, comment ça se fait qu'on ne puisse pas se mettre autour de la table et tout de suite prendre les bonnes sanctions. Et donc ça, c'est vrai que par rapport au tempérament de Donald Trump, il ne comprend pas pourquoi on ne se donne pas réellement les moyens. Je vais prendre un exemple très concret par rapport à la France. Il n'y a pas si longtemps, Emmanuel Macron parlait d'économie de guerre. Oui, mais quand on regarde nos industries de l'armement, aujourd'hui, elles n'ont pas encore leurs commandes. Donc, entre les effets d'annonce et la réalité, il y a un gap. Et ça, c'est vrai que Donald Trump ne supporte pas ça au niveau de l'Europe. Et à sa manière, il n'est pas forcément très diplomate. Mais peut-être que c'est aussi pour nous, Européens, d'avoir un déclic. Parce que si on n'a pas ce déclic-là maintenant, on risque d'avoir le déclin. Parce qu'on voit qu'au final, l'Europe ne fonctionne pas forcément très très bien.
Oui, elle a ses limites, évidemment.
Elle a ses limites.
Mais est-ce que Trump fait peur, pour être très clair? On voit, on lui distribue des prix un peu bidons avec ce fameux prix de la paix FIFA, où on distribue un prix de Nobel de la paix qu'on ne lui a pas donné, mais qu'on donne à une de ses, ses alliés au Venezuela. Alors, pour la citer, Machado, qui a reçu le prix Nobel de la paix, qui est une figure un peu controversée de l'opposition vénézuélienne. Donc, on voit quand même que à l'international, on veut pas se fâcher avec lui, mais on lui donne des gages d'entente. C'est quand même un peu bizarre tout ça, non ?
Après, on ne va pas lui reprocher qu'il souhaite une résolution rapide de ce conflit russo-ukrainien.
Oui, bien sûr. Évidemment,
derrière, il faut quand même avoir à l'esprit que les Américains stationnent aujourd'hui 76 000 soldats en Europe pour une stabilité, pour défendre la démocratie. On ne peut pas leur reprocher qu'ils prennent ça de haut. Aujourd'hui, dire que les États-Unis souhaitent une paix à peu près partout sur la planète, c'est quand même une réalité. L'engagement se fait aussi au Moyen-Orient, l'engagement se fait aussi sur le continent sud-américain. Après, ça reste, c'est vrai, d'un autre côté, les États-Unis, le super gendarme, et on est d'accord ou pas d'accord avec cette position et leurs idées.
Mathieu, là-dessus, sur le, voilà, comment vous voyez les relations internationales et l'omniprésence de Trump dans les conflits internationaux, alors avec peut-être cette bonne volonté effectivement états-unienne de vouloir restaurer la paix dans les pays en conflit.
Je me demande s'il cherche vraiment la paix. Et justement, s'il cherchait vraiment la paix en Ukraine, pourquoi on n'a toujours pas de deal qu'il avait annoncé?
Oui, il y a
48 heures.
Ces fameux soupçons, ouais, hein, d'ingérence russe dans les accords de paix.
On n'en a toujours pas. Et aussi, je vais dire, je pense qu'on ne peut plus compter sur les États-Unis. Parce que comme on a dit tout à l'heure, c'est America first. Donc ça veut dire qu'on va un peu laisser l'Europe gérer ces conflits. Et nous, en interne, on fera ce qu'on veut de notre côté. Et puis...
Ou alors on agira si ça correspond à des intérêts bien particuliers pour les États-Unis.
Oui, oui. Jérôme. Mais justement, là, c'est très intéressant ce qui s'est passé là cette semaine. Le budget de la défense a été voté par le Congrès. Le Congrès, il est à dominante républicaine. Eh bien, figurez-vous que dans le discours de Donald Trump, c'est de dire on va se retirer un petit peu de l'Europe, on va se retirer de l'OTAN, ou en tout cas, l'OTAN n'aura plus le même rôle en Europe. Eh bien, le Congrès républicain dit l'inverse. C'est-à-dire que dans le budget, c'est écrit clairement qu'ils sont toujours d'accord pour le soutien aux alliances, dont l'OTAN. Donc, il faut être extrêmement prudent. On a un président qui parle beaucoup, qui n'a pas les pleins pouvoirs, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et là, je dirais, sur le budget de la défense, le vote de cette semaine avec le Congrès républicain est très intéressant parce qu'il est à l'opposé quand même de ce que Donald Trump dit depuis plusieurs jours.
Allez, on va clôturer. Alors, on va attaquer ce dernier bout. Il est 18h passé. Christophe me pardonnera pour le décalage de sa Roxette qui va arriver juste après, c'est promis. On va quand même faire un petit bond dans le temps vers le futur avec, donc, dans moins d'un an, c'est toujours aussi comme les élections présidentielles américaines, états-uniennes, les midterms qui seront donc dans un an. La campagne, j'imagine, va commencer très tôt. Les campagnes électorales américaines et états-uniennes sont souvent très longues. Comment va s'organiser donc l'opposition, le parti démocrate, qu'est-ce qu'elle peut faire pour essayer de regagner la chambre, hein, c'est comme ça qu'on dit, des représentants, et bloquer, limiter les pouvoirs de Trump pour les 2 années suivantes de mandat?
Il faut qu'on trouve notre champion.
Ouais.
Et ça, c'est pas donné. Hein.
Ouais.
Mais il y a quelques joueurs, je vais dire, qui se présentent. Mais le problème, c'est de s'unifier derrière une personne. Et j'ai des doutes là-dessus. Je pense que ça va être compliqué pour les Américains.
Au-delà d'une personne pour une campagne présidentielle, est-ce que, Mathieu, vous entrevoyez une possibilité pour les démocrates? En général, c'est souvent ces élections intermédiaires sont souvent l'occasion de changer le curseur, en fait, de pousser le curseur à l'autre bout, parce qu'on est rarement content des 2 premières années du mandat du président en cours, et donc la Chambre part sur l'autre côté. Est-ce que vous croyez que ce sera possible? Est-ce que ça vous semble évident au vu de ce qui se passe aux États-Unis et que voilà, les sondages sont quand même pas bons pour Trump, hein,
oui,
avec toute la limite que j'ai moi-même à évoquer des sondages, mais...
Et c'est vrai, oui. Je pense que ça bascule un peu,
ouais,
et je pense que... Il y a des joueurs qui sont en train de mettre des choses en place, mm-hmm, justement pour gagner les élections midterm. On voit ce qui se passe un peu en Californie, au Texas, avec le gerrymandering. Bah, c'est aussi légal pour les démocrates de faire pareil.
Mm.
Donc c'est exactement ce qu'ils sont en train
de faire.
Il faut
jouer avec les mêmes cartes.
Malheureusement, ouais.
Oui.
Donc ouais, je pense que les Américains vont voter. Et on verra très bientôt comment ça va changer, je pense, ou pas.
Jérôme, sur les midterms?
Ah bah tout à fait, là, les midterms sont toujours un problème pour le pouvoir en place. Donc là, les républicains ont très très peur. Donald Trump a très très peur. Mais depuis qu'il est arrivé à la Maison-Blanche, hein, dès le premier jour, il est obnubilé par les midterms, au point qu'il s'implique personnellement hein, pour notamment faire les levées de fonds, pour choisir les candidats et les candidates. Donc c'est un peu peut-être panique à bord. Hein, en tout cas, c'est à suivre avec beaucoup d'attention et c'est dans un an.
Et projetons-nous sur une présidentielle donc de 2028 avec un renouveau à gauche. Mathieu, avant d'arriver dans le studio, vous ne nous cachiez pas vos dispositions à gauche sur l'échiquier états-unien. Le renouveau, donc vous parliez d'une personne un peu providentielle, ça vous semble encore difficile à voir, mais est-ce que aussi avec l'arrivée de Zoran Mamdani, alors qu'il ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle, il faut être citoyen américain, Zoran Mamdani ne l'est pas, mais est-ce que chez vous ça suscite de l'espoir que cette partie des démocrates américains puisse embrayer quelque chose avec Bernie Sanders? Mais Bernie Sanders c'est quand même plutôt en fin de carrière, on peut pas dire en fin de vie, excusez-moi, mais voilà, c'est un vieil homme maintenant, Bernie Sanders. Donc est-ce que ça pourrait enclencher une nouvelle dynamique du côté des démocrates avec quelque chose de plus radical aussi, en fait, comme Trump a radicalisé le parti républicain, enfin en tout cas c'est positionné vraiment très clairement sur l'échiquier. Est-ce que il va renvoyer justement une ouverture beaucoup plus radicale de la gauche américaine?
Croisons les doigts. Ouais. Par contre, faut pas oublier que c'est la partie démocrate qui choisissent leur candidat. Donc c'est là où c'est compliqué.
Ouais.
On a vu ça avec Hillary Clinton, Bernie Sanders. Mmh. On parlait de lui tout à l'heure.
Ouais.
Il était populaire, mais le parti fait que il peut pas se présenter.
Ouais. Et on parlait aussi de Gavin Newsom, le gouverneur californien, qui incarne aussi une espèce de renouveau, mais qui est quand même très installé dans la grande machine démocrate. Donc, est-ce qu'il incarnerait aussi un renouveau? Ça fait partie du débat chez les
tout
démocrates.
À fait.
Ouais. Ok. Ça marche. Bon, écoutez, je n'ai d'autre choix que de vous réinviter dans un an, messieurs. C'était passionnant et je n'ai pas évoqué la moitié des questions que je voulais voir avec vous. Merci à tous les deux d'être venus. Jérôme Danard, donc de l'association Amitié France USA. Merci Mathieu d'être venu, citoyen donc américain sur le territoire français. C'était passionnant. Merci à Mathilde et à Léna d'avoir fait la traduction sur les petits témoignages de citoyens états-uniens qu'on a entendus. Christophe, je te rends l'antenne. C'est la Rockset List qui commence tout de suite. L'émission sera à retrouver en podcast dès demain matin. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année sur les antennes de Studio ZEF. C'était la dernière lornette de 2025. On se retrouve en 2026 pour d'autres émissions, évidemment. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi l'émission. Merci beaucoup à tous et à toutes.
Merci.
Merci à vous.
Au revoir.